Et comme tous les lundis ou presque, c'est le rendez-vous parents enfants en mode d'emploi. Bonjour Émilie Binichou.
Bonjour Didier.
Comment ça va bien?
Ça va bien et vous?
Moi je vais parfaitement bien. On va évoquer aujourd'hui un sujet bien intéressant ma foi. Aux sorties du lac Baumer, vous m'avez dit j'ai envie de faire une chronique sur le fair play parce que j'ai vu des trucs hallucinants.
Alors, pas vraiment hallucinant, mais je me suis juste demandé dans quelle mesure on pouvait éduquer nos enfants au fair play en règle générale.
Bonne idée.
Et surtout, pourquoi finalement la plupart d'entre nous sommes, depuis petits souvent et par après, des mauvais perdants au-delà d'être des mauvais joueurs. Parce qu'en fait, la plupart d'entre nous, on aime bien jouer, mais malgré tout, on a été, je pense, souvent éduqués dans l'idée que jouer veut dire gagner. Et je me suis demandé quelles étaient les clés pour nous parents peut-être essayer de transmettre à nos enfants et aux futures générations. Et c'est pas en particulier autour du lac Baumer, mais c'est vrai qu'en fait l'année précédente, moi c'est la première année à laquelle j'assiste à cet événement. Et en fait justement le fair play a été maître mot de cette année et a été revendiqué tout le temps et demandé aussi bien aux parents qu'aux enfants qu'au mouvement de jeunesse eux-mêmes parce que forcément bah, c'est quand même l'idée de la gagne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me suis interrogée sur comment arriver à motiver nos troupes, que ce soit dans le lac, dans le sport, dans les jeux de société quand vous êtes en famille et dans tout type de jeu où il y a au bout une victoire, comment arriver à donner une force à notre enfant pour qu'il ait envie de gagner malgré tout et de réussir, et à la fois qu'il ne soit pas déçu de perdre et qu'il arrive à prendre les bénéfices de ce jeu-là en tant que jeu. Parce que finalement, que ce soit le sport, un jeu de société en famille ou autre, le but n'est pas de finir par être complètement détruit ou en tous les cas de vivre ça très mal, d'en pleurer, etc., même si ça arrive et que c'est humain.
Il faut se référer à Pierre de Coubertin, alors, en disant l'important, c'est de participer aussi.
Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai jeté un petit coup d'œil à différentes choses. Alors, il faut savoir que c'est ce qui est très bien en tous les cas pour le sport, c'est qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites dans ce sens-là, même au niveau des différentes fédérations en Belgique, et qui recommandent de faire des jeux de coopération pour enseigner ça et en tirer des enseignements. Parce que finalement, souvent, quand les enfants arrivent au moment de commencer un sport du parascolaire, ils ont déjà 7-8 ans. Ce qu'ils veulent, c'est et se faire plaisir, mais aussi faire plaisir à papa et maman. Et c'est un peu le fond du problème. C'est-à-dire que dans la plupart des sports, et ça ira plus tard dans le même sens, on veut se faire plaisir, mais on veut surtout faire plaisir aux autres et se prouver à soi-même qu'on est doué. Et en fait, qui dit échec pour un enfant, que ce soit dans le sport ou dans le jeu ou dans quoi que ce soit, dit forcément une espèce de sous-estime de soi. C'est-à-dire quand tu perds, ben, t'as perdu, t'es mauvais. Et en fait, c'est là que tout le travail doit commencer. Et donc, les fédérations de sport ont créé des jeux de coopération. Donc, pourquoi le jeu de coopération? L'idée, c'est pas de gagner tout seul, c'est de gagner ensemble, en fait. Et d'avoir ce côté équipe, et c'est pas d'être les uns contre les autres, mais de coopérer ensemble pour gagner.
Mais d'ailleurs, on dit toujours, on joue avec, on ne joue pas contre.
Exactement. Mais finalement, c'est ça. Là, l'idée, c'est de mettre des équipes qui parfois même s'affrontent côte à côte et de dire, voilà, on va faire un principe de relais. Le relais, c'est le truc type où à un moment donné, vous ne pouvez pas gagner l'un sans l'autre. Et si vous n'êtes pas capable de coopérer correctement, alors vous perdez. Mais finalement, la plus grande perte, c'est de ne pas coopérer et de ne pas se dire qu'on travaille ensemble pour le même but. Donc ça, c'est plutôt pour les jeux d'équipe et plutôt pour dans le sport.
Mais ça, c'est l'esprit d'équipe. Le fair play suppose aussi... Le fair play, c'est l'état d'esprit qu'on a vis-à-vis de l'adversaire.
Oui, mais ça va ensemble.
Bien sûr.
Finalement, vous êtes dans une idée que si dans votre tête, jouer, c'est coopérer, si dans votre tête, jouer, c'est... être ensemble pour gagner, mais pas forcément être contre l'autre. On se donne les moyens à soi-même d'arriver à son but. Et si on n'y arrive pas, on aura tout fait. C'est un peu stoïcien, j'ai envie de dire. Le but, c'est de tout se donner les moyens pour y arriver. Et du coup, on est moins déçu quand on perd et qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour y arriver.
Bah, on s'est amusé, ça, c'est le
voilà.
principal.
Voilà. Et donc, derrière, on a mis les moyens. On n'y est pas arrivé. C'est tant pis. Mais c'est pas dramatique. Et on n'est pas en train de se dire qu'on est le plus mauvais du monde, etc. Parce que non. En tous les cas, dans le principe d'équipe. Maintenant, on remet ça dans la sphère familiale et dans les différents niveaux d'âge. Ce qu'il faut regarder, c'est notamment dans les jeux de société, comment ça se passe avec les enfants. Alors pour le coup, c'est normal qu'un enfant de 4 ans, quand il va jouer à un jeu, il va pleurer s'il perd. C'est normal et quelque part, il faut le laisser faire parce que ça répond de sa frustration qui justement veut dire « j'ai pas réussi, j'ai raté, je pleure, je suis pas content ». C'est très bien. Et c'est normal.
C'est ça,
et ça fait partie du développement naturel. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit développer avec ces enfants-là? C'est plusieurs choses. C'est-à-dire, on s'assoit à un jeu de société ensemble. Vous avez une fratrie et des adultes. Il faut forcément prendre un jeu qui correspond la plupart du temps à l'âge du plus jeune. Parce que finalement, si vous jouez au Monopoly +++, que le petit qui a 6 ans, il est un peu perdu dans ses comptes, dans ses dés, dans ses trucs, bah, forcément, il va perdre tout le temps, il va être tout le temps frustré. Donc, il ne faut pas les laisser gagner, mais il faut faire en sorte de trouver un jeu qui soit toujours pareil, un peu dans la coopération déjà, ça peut être chouette, donc ça je vous en parlerai après, il y a vraiment des jeux de coopération où en fait on n'est pas les uns contre les autres, on va aller tous dans le même but pour aller chercher les carottes du lapin, des trucs bêtes mais qui fonctionnent. Mmh. Et au-delà de ça, il faut enseigner aussi à votre enfant que le fait de perdre ne veut pas dire qu'il est mauvais, le fait de perdre ne traduit pas tout ce mal-être qu'il ressent à ce moment-là, mais pour autant, il ne faut pas faire en sorte qu'il gagne tout le temps pour pas qu'il fasse sa crise, parce que ça aussi, ce n'est pas bon.
Donc, c'est un mauvais signe qu'on lui envoie, un mauvais
signal.
Voilà,
c'est ça, parce que lui, il pense finalement, je perds, ce n'est pas grave, je gagne, ce n'est pas grave. En fait, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que des fois tu gagnes, des fois tu perds.
L'échec est aussi un passage incontournable dans le développement.
Et il faut que ces moments familiaux autour d'un jeu de société soient encore une fois des moments de plaisir pour tout le monde et pas une compétition. Après, j'ai envie de dire qu'il y a un paramètre qui est évident et essentiel dans cette histoire, c'est l'exemple que nous, adultes, on va donner aux enfants. Là, pour le coup, si par nature, vous êtes un mauvais perdant, c'est quand même compliqué. Et je le vois, je ne dirais pas à la maison, mais j'ai pu le voir, des adultes qui sont plus fâchés que les enfants quand ils perdent contre les enfants.
Donc, j'ai connu ça.
Je pense que c'est une éducation générale en famille et en tous. Être compétitif, c'est bien. On ne va pas dire qu'il ne faut pas, mais toujours pareil, il faut essayer. Et chez votre enfant, ce qu'il va falloir faire, c'est toujours pareil. Et trouver des jeux qui s'adaptent à tout le monde dans la mesure du possible en termes d'âge et qui répondent à tout le monde en termes de connaissances. Et éventuellement, quand on sent que c'est un âge, parce qu'il y a certains âges qui sont plus problématiques que d'autres, essayer de faire en sorte de passer sur des jeux de coopération qui vont moins mettre en compétition. Et encore une fois, ne quand même pas jouer le jeu de laisser gagner ou de pas perdre, parce que ça fait partie du jeu de gagner et de perdre, et que votre enfant, comme pour toutes les frustrations de sa vie, doit comprendre qu'à un moment donné, on ne gagne pas tout le temps, on ne perd pas tout le temps, et que même si on perd souvent, ça ne veut pas dire qu'on est quelqu'un de mauvais, et c'est vraiment ça l'idée. Et pour le fair play, effectivement, il faut essayer d'enseigner à nos enfants qu'on est en train de jouer, on ne doit pas en vouloir à l'autre parce qu'il nous a fait perdre, parce qu'il ne nous a pas fait perdre. On a perdu à cause de la chance, on a perdu parce qu'à un moment donné, on n'a pas été assez rapide, ou des paramètres extérieurs, mais c'est pas grave.
Parce que les autres sont meilleurs à ce moment donné, bien précis.
Voilà, c'est ça. Mmh. Et que ça n'implique pas que ce sera toujours le cas. Et voilà, parce que pour les enfants, c'est un peu quand c'est répétitif, effectivement. Et c'est pour ça que je dis de bien adapter les jeux en fonction du moment, de l'âge, etc. Parce que je vous dis, si vous jouez toujours au même jeu que votre enfant, entre guillemets, il n'y arrive pas parce que c'est pas de son âge, parce que si, parce que là, forcément, il a toujours l'impression de perdre. Et c'est comme ça qu'on devient un mauvais perdant. Et on peut devenir un mauvais perdant parce qu'on est toujours un gagnant et qu'on a aussi parfois des parents ou de la famille qui va trop pousser sur le gagnant, qui va trop mettre de pression. Donc ça aussi, on joue. Alors là, on parlait de jeux de société, je pense pas que ça arrive beaucoup. Mais en tous les cas, dans le sport, vous venez encourager vos enfants, c'est très bien, mais on peut le faire de manière nous-mêmes fair play et se dire qu'à un moment donné, ils gagnent, c'est bien, ils perdent, c'est pas grave, même si on aurait préféré qu'ils gagnent parce que par nature, l'être humain est plutôt gagnant et c'est plutôt bien d'encourager nos enfants à être des gagnants, mais dans un respect de tous et avec une bonne entente, ça peut être chouette.
En résumé, si je vous ai bien suivi, le but est de gagner, mais c'est pas grave si on perd.
En fait, le but est de se donner les moyens de gagner. Mmh. Je le traduirais vraiment comme ça.
Je suis d'accord.
C'est-à-dire, en fait, nous, en tant que parents, on doit soutenir la démarche et toujours être là pour dire où tu es capable ou être capable d'évaluer que tu n'en es pas capable, parce qu'il y a certains sports, moi j'ai fait, ça regarde personne, mais j'ai moi-même fait du sport, j'étais pas douée, et mes parents ils pouvaient rien, et c'est comme ça. Et
je me suis essayé à la danse classique, j'ai vite abandonné.
Et voilà, on rigole, mais c'est l'idée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ne poussez pas non plus vos enfants dans des sports ou des domaines. Moi je trouve ça très chouette que des enfants connaissent leurs propres limites, et sachent par exemple, là notamment au lag, les enfants petits, certains sont capables de dire, le crick ça me fait peur parce qu'à un moment donné je risque de me faire mal, je préfère ne pas participer à cette épreuve-là. Et ça, pour le coup, je trouve ça très sain et je trouve que c'est le début d'une avancée dans le fair play, dans le respect du jeu et dans l'idée qu'on est aussi capable de baisser ses limites et de se dire on ne va pas y aller coûte que coûte, c'est pas grave, je participerai l'année prochaine quand je serai un peu plus grand, ou inversement, cette épreuve-là, c'est pas mon délire, je ne vais pas le faire. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts, je pense, et tous les niveaux, et c'est peut-être ça qui permettrait que tout le monde s'entende bien.
Il y a un autre aspect au fair play, pour moi, c'est la culture de la non-triche.
Alors ça, par contre, dans ce que j'ai lu, c'est vrai que vous faites bien d'en parler, pour les enfants petits, en fait, on dit que c'est naturel la tricherie et que quelque part, il ne faut pas les empêcher de le faire.
Ne les empêchez pas, mais les encourager, il y a encore
un pas que je ne franchirais pas. Non, alors, dans le fair play, effectivement, mais là, on parle d'enfants plus grands ou de, un enfant grand qui triche volontairement, ce n'est pas joli, mais après, ça aussi, ça fait un peu partie de la nature humaine dans le jeu, c'est pas bien. Et donc là aussi, il faut éduquer nos enfants. Mais en fait, je pense que tout est lié à cette histoire de gagner. Parce que si dans le fond, votre enfant comprend que gagner c'est bien, mais qu'on doit pas gagner à tout prix, on a déjà tout gagné en termes de fair play. Parce que ouais, forcément, d'accord. Il saura qu'il peut se réjouir du fait que le voisin a gagné. Et il aura pas besoin de tricher pour gagner coûte que coûte, puisqu'il aura l'idée que gagner par ses moyens et se donner tous les moyens pour gagner, à part la tricherie, c'est bien. Mais sinon, effectivement, le respect des règles, etc., ça fait aussi partie de l'enseignement du fair play, évidemment.
Bien, vous aviez dit tout à l'heure, et on va y revenir pour terminer cette chronique, si vous en êtes d'accord, vous avez dit que vous aviez un jeu de coopération, c'est comme ça que vous l'avez appelé ?
Ah oui, alors c'est les jeux, alors ça fait un peu pub, mais c'est la marque Abba, si je ne dis pas de bêtises, et nous, on avait acheté à la maison un jeu avec une histoire de lapin qui doit aller cueillir des carottes, et en fait, vous êtes ensemble pour aller cueillir toutes ces carottes, et en fait, il faut que le lapin n'ait plus de carottes à manger avant que vous ayez perdu, vous voyez. Et j'ai un truc aussi avec des licornes dans la même idée, où finalement, tout le monde lutte pour permettre à toutes les licornes de monter sur un nuage. Donc, vous êtes tous ensemble. Et si les licornes gagnent, ben vous avez perdu, mais contre la licorne. Donc, au pire des cas, il y a une licorne, vous êtes fâché contre une licorne ou un lapin qui a mangé toutes les carottes. Mais en tous les cas, dans la fratrie, vous avez joué ensemble pour dégommer la licorne ou le lapin. Donc, c'est ça. Et c'est ça l'idée de ces jeux de coopération. C'est-à-dire, on se met tous ensemble autour de ce jeu-là pour lutter contre un élément fictif. Voilà, ou pas pour gagner, en fait, même pas pour lutter, parce que du coup, c'est pas très fair play, mais en tous les cas, pour réussir la mission qu'on d'accord. vous a donnée et vous associer pour le faire.
Et ça, c'est pour une tranche d'âge bien précise.
Alors, il y a tous les niveaux pour ce d'accord. genre de jeu, mais c'est quand même plus. Il y en a pour les plus petits, justement, parce qu'en fait, finalement, cette idée de crise au moment de la perte, c'est plutôt vers 5-6 ans, en fait, quand on commence à comprendre les jeux de société, mais qu'on est encore dans cet entre-deux. Et donc, pour les éduquer et un peu dédramatiser le jeu, ce type de jeux sont adaptés. Mais nous, on y joue encore avec des enfants plus grands, parce que le principe est sympa et que vous pouvez tout à fait aller pêcher des nuages pour la licorne ou des diamants ou je ne sais plus quoi, je mettrai les références, et réussir à faire monter tous les diamants sur le nuage avant que la licorne y arrive. Et c'est chouette, à tout âge, il n'y a pas
de
limite d'âge.
Je retiendrai donc, ça s'appelle jeu de coopération. Si vous allez dans un magasin de jouets,
voilà.
Vous vous renseignez là-dessus et ça peut être très sympa. Merci beaucoup, Émilie.
Avec grand plaisir, Didier.
On se retrouve dans 15 jours.
À dans 15 jours.
Avec bonheur.